Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Chaque fois qu'il y a une tuerie de masse aux États-Unis, les gens offrent les mêmes vœux. Thoughts and prayers, nos pensées, nos prières. J'ai envie de dire aux Américains, vous n'êtes pas tannés. Vous n'êtes pas tanné des minutes de silence, vous n'êtes pas tanné de cette formule creuse-là, « Thoughts and prayers », nos pensées, nos prières. Ça donne quoi? Ça recommence chaque semaine, chaque année. Et quelqu'un rentre dans une école et tue des enfants, tue des innocents, tue des professeurs. Dans ce cas-ci, au Texas, il y a une professeure qui a essayé de sauver ses élèves. Elle est morte sur la pointe d'un fusil. Quand je vois cette obstination à répéter thoughts and prayers, j'ai envie de pousser un découragé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Dans deux jours, le 27 mai, ça va faire exactement 20 ans que Sophie Thibault est devenue la toute première chef d'antenne à la tête d'un bulletin d'information majeure à l'échelle de l'Amérique du Nord. C'est énorme. 20 ans plus tard, on fait un bilan de ces dernières années avec Sophie Thibault. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Sophie.
Bonjour chère homonyme.
Oui, exactement. On a le même prénom, on travaille pour la même entreprise. 20 ans Sophie, on se le disait avant de commencer l'entrevue. Où sont passées ces années-là? J'ai l'impression qu'on a cligné des yeux et que on se retrouve 20 ans plus tard. Quel bilan tu fais, toi, de ces 20 dernières années?
Oh, d'abord, merci pour l'invitation. Ensuite,
plaisir.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la même perception que j'ai. Un clignement d'yeux et c'est fini. On entendait souvent nos aïeux dire ça. Hein, ça passe vite, profite-en. Mais tant qu'on ne le vit pas nous-mêmes, on comprend pas tout à fait ce que ça veut dire. Mais la bonne chose, j'imagine, dans ma perception, c'est que je me dis, si c'est passé si vite dans mon esprit, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir.
Bien
et que,
répondu.
Parce que généralement, quand on s'ennuie, on trouve le temps long. Alors, comme ça passe en un clin d'œil, ça veut dire que je suis sur mon X et je suis au bon
Absolument.
Endroit.
Alors écoute, j'ai fait une petite recherche, Sophie. J'ai retrouvé un texte du journal La Presse pour nous annoncer. Ils ont fait une entrevue avec toi il y a 20 ans. Quand on venait d'apprendre, donc tu t'en venais lire ton bulletin d'information comme chef d'antenne à 22h, c'est Nathalie Collard dans La Presse qui écrit ce texte et elle nous raconte...
Elle écrit sa pudique, c'est ça?
Ah, je me souviens plus le titre parce que j'ai fait une capture d'écran, je me souviens plus du titre. Mais ça raconte l'anecdote suivante. L'été dernier, Sophie Thibault a bien failli abandonner le journalisme. J'étais découragée, je me disais que je n'avais plus d'avenir dans ce métier, que j'allais faire des remplacements et des bulletins de fin de semaine toute ma vie. Et là, ça raconte que t'as failli retourner sur les bancs d'école pour aller terminer ta maîtrise et que t'avais même appelé le directeur de département de psychologie de l'Université de Montréal. C'est vrai, t'as pensé abandonner il y a 20 ans.
Ah oui, oui, absolument. Oui, parce que j'avais le sentiment que j'étais dans une sorte de cul-de-sac professionnel parce que ce que ça peut être les week-ends, c'est formidable, les bulletins de fin de semaine, il se passe énormément de choses, puis il y a de très bonnes cotes d'écoute le dimanche, on s'entend là-dessus, mais disons pour la vie privée, pour la vie culturelle, pour la vie normale, c'est un peu moins jojo. Alors au bout de 5-6 ans de ce régime-là, là, je lançais des perches à droite à gauche, je rencontrais des patrons, et puis j'avais le sentiment que j'étais casée, tu sais. Et la vie a fait, au fond, c'est moi, la vie m'a toujours très bien menée par le bout du nez, là. La vie avec un grand V, à un moment donné, a décidé il y avait des événements très, très malheureux au demeurant, mais qui ont vraiment modifié ma carrière, le tracé de ma carrière carrément.
Comme le 11 septembre.
Comme le 11 septembre, effectivement, qui a fait que la case du midi s'est libérée parce que Pierre Bruno est allé animer une nouvelle émission à 17h, le nouveau bulletin. Alors, la case du midi se libérait et on m'a installée là. Alors, après des mois et des mois de récrimination, j'ai été entendue par l'univers et j'ai commencé là pendant quelques mois. Et ça a duré quelques mois parce que ça nous mène à 2002, où là, Simon Durivage a libéré à son tour la case pour une deuxième fois en peu de temps du 22h. Et là, pour une deuxième fois, mon nom s'est mis à circuler dans les médias, dans les focus groupes et tout. Et cette fois-là était la bonne. Philippe Lapointe a pris cette décision qui a changé ma vie et ma vie professionnelle de me confier ce bulletin-là. Et donc, le premier, c'était le 27 mai.
Alors, c'est intéressant parce que tu viens de mentionner les focus groups. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est on réunit des téléspectateurs, des auditeurs potentiels, des gens qui écoutent TVA, qui écoutent LCN, et on leur présente différentes personnalités ou différents bulletins, puis on dit, est-ce que ça, vous aimez ça? Et il y a des psychologues, il y a des analystes qui disent, bon, ben, ça marche, ça teste positif, puis ça teste négatif, les gens le rejettent. Ouais. Donc, ça veut dire que la population québécoise était prête pour Sophie Thibault, était prête pour une femme aux commandes des nouvelles. C'est oui. Majeur, ça.
Oui, exactement. Et tu vois, je me plais à le répéter, mais j'avais croisé Jean-Marc Léger dans le sous-sol de TVA un petit peu avant, quelques années avant, à l'époque où je me sentais coincée au week-end. Et il me disait carrément, dans les sondages, les gens, le public disait, l'exprimait haut et fort que la crédibilité pour eux, c'était un homme, c'était une voix forte, grave, c'était une cravate, c'était un complet costume, cravate, c'était ça. Le public ne voulait pas d'une femme à la tête d'un bulletin majeur, pas toute seule, parce qu'on s'entend qu'il y en a eu en duo, il y en a eu les fins de semaine, j'en étais, mais seule, à la barre d'un bulletin, toute seule, responsable d'un bulletin, grosse cote d'écoute, là, non, les gens étaient pas prêts pour ça. Et tu parles des focus groupes, Philippe Lapointe, qui m'a nommé, dans son livre « Aventure au pays des nouvelles télévisées », raconte comment il faisait justement ces focus groupes-là, puis les gens avaient carrément des manettes devant eux, et puis Colette Provencher arrive, la petite ligne s'en va vers la droite, ils l'aiment, c'est bon signe. Ils ont fait ça de façon systématique avec plusieurs personnalités, avec des moments aussi, avec des offres. Bon, la section sport, comment ça réagit? Oh, ça s'en va vers la droite, parce qu'on met plus de sport. Alors, ils ont vraiment commencé à faire ce type de sondage-là pour être plus en phase avec les besoins, les envies du public.
Puis, en même temps, c'est compréhensible, parce qu'on fait de la télé pas pour notre propre plaisir, on fait de la télé pour les gens. Donc, c'est aussi important. Mais ce que ça veut dire, ça témoigne de l'évolution des mentalités. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, ils ont vu Sophie Thibault, puis là, ils ont fait aller leur petite manette à droite. Et c'est aussi un témoignage de l'ouverture d'esprit des Québécois, parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était la première fois en Amérique du Nord qu'il y avait une femme seule chef d'antenne à la tête d'un bulletin d'information. Donc, t'as été une pionnière dans ce sens-là, et on peut dire que le Québec a été pionnier aussi.
Absolument. Ah oui, tout à fait. Puis, je le répète dès que je le peux, Philippe a changé ma vie, mais le public qui m'a porté. C'est ma carrière est liée intimement au public, qui, dès le départ, au moment, dans ces années-là où j'étais présente la fin de semaine, les codes d'écoute sont mis à monter. On a fait notre premier million, je pense, une année après ma nomination à la fin de semaine. Alors, on a vu les codes monter. Alors, donc, ça s'invente pas, là. Le public était prêt, le public appréciait, puis... Et moi, je suis rien sans public. Je suis comme la poune, finalement.
T'es la poune de l'information. Je pense que ça va être ça, là. Oh, c'est dangereux que t'aies dit ça.
On garde ça entre nous.
Oui, 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 c'est ça, entre nous et nos auditeurs. Non, mais j'aime beaucoup l'image, ouais. Mais c'est aussi, ça veut dire que, parce que la Poune, elle disait tout le temps ça, mais en même temps, c'est le signe aussi d'une complicité, hein, d'un lien vraiment très fort avec le public. Quand Denis Lévesque a annoncé qu'il quittait tout récemment, il a dit à quel point ça a été difficile pour lui les 2 années de la pandémie, parce que, bon, il pouvait pas recevoir des gens en studio, aussi parce que, ben, on a été monomaniaque pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait à peu près qu'un seul sujet. Est-ce que toi aussi, ça t'a affecté? C'est-à-dire que pendant ces 2 années-là, quand on est à la tête d'un bulletin de nouvelles, c'est la diversité, on peut parler de sport, de politique, de culture, etc. Pendant 2 ans, on a quand même juste parlé de maladie. Est-ce que ça t'a affecté psychologiquement, toi?
Ben, ce qui m'a affecté psychologiquement, c'est l'atmosphère générale, c'est la peur au ventre de tout le monde, c'est le fait que un autre être humain est tout à coup est devenu un objet de méfiance. Sociologiquement, psychologiquement, on a tous vécu un choc intérieur profond. Ça m'a affecté énormément. Plus, je te dirais que l'aspect technique des choses, oui, en effet, on ferme les portes, on se met des masques, on se nettoie à tout bout de champ, on devient effectivement monomaniaque. Mais plus que ça, fondamentalement, c'est cette peur-là de l'autre, moi, qui m'a vraiment perturbée, là, mais vraiment, vraiment. Et là, je suis contente, c'est l'été, et puis on est rendu presque à l'orée d'une troisième année de pandémie, ça va finir par finir, là, c'est ce qu'on se dit, là. Ça va finir par aller bien, mais là, on a retrouvé une certaine liberté étant donné l'état de la contagion puis où est rendue la pandémie. Mais ça, j'ai trouvé ça très, très, très dur. Mais d'une certaine manière, comme moi, j'ai commencé au niveau de la santé, je couvrais le secteur de la santé pendant des années.
C'est vrai.
Quand j'ai commencé en 1988 à Télémétropole, alors les sujets de santé m'intéressent énormément. Alors, ça a été un objet de curiosité incroyable. C'était un cours 101 sur les virus, là, avec notre collègue Diane Lamarre, la pharmacienne, qui était tout le temps là. On a appris énormément. Au fond, comme on disait, comme on le répétait souvent, on construisait l'avion là, pendant qu'il volait, mais on a fait ça aussi, nous, comme journalistes, comme chef d'antenne. Moi, j'ai passé matinée le nez dans des livres, des trucs sur des sites Internet de santé pour essayer de comprendre, de saisir l'avancée du virus. C'est quoi ce sous-variant-là? Qu'est-ce que ça veut dire, telle affaire? Alors, on était vraiment à l'école de la virologie pendant 2 ans de temps. Mais c'est très curieux parce que tu vois, la semaine dernière, c'était la première fois qu'en studio, je recevais quelqu'un à 3 pieds de moi. J'avais Emmanuel Latraverse qui était à ma droite. Et on a toutes les deux réagi de la même manière. On avait tendance à se tenir un peu loin, tu sais. C'est dire qu'après 2 ans, c'est à quel point on a intégré cette peur de l'autre, cette méfiance et tous ces réflexes qui sont sains, qui sont corrects, puisqu'il fallait les développer, là, de se tenir loin de l'autre et puis de se méfier des postillons et tout, mais c'est profond, c'est quelque chose dans l'histoire d'une vie. Là. Tu vas raconter ça à tes petits-enfants, toi, dans 20 ans, puis ils y croiront pas. Là.
On l'a vraiment intériorisé. Écoute, Sophie, si on devait définir la manière Thibault, le ton, c'est quoi? C'est la proximité, c'est le calme, c'est la rigueur, bien sûr. Mais toi, comment tu le définirais, ton ton, ta singularité, ta signature, Sophie Thibault, c'est quoi? Tu la définirais comment?
C'est drôle, non, je pensais à ça parce qu'on me pose forcément la question. On me demande aussi c'est quoi l'impact d'une femme qui lit une nouvelle, ça change pas, un bulletin, ça a été étudié, ça fait l'objet de maîtrise, puis ça m'est très difficile de répondre à cette question-là. J'ai envie de dire oui, il y a une différence, mais en même temps, j'aime pas les généralisations, puis je me dis bon, il y a des hommes qui sont comme des femmes, il y a des femmes qui sont comme des hommes, il y a des caractères, il y a des personnalités. Au fond, c'est tellement personnel. Mais tu vois, je me disais hier, c'est drôle, à un moment donné, quand j'ai commencé, moi, j'imitais tout le monde. Tu sais, on n'apprend pas ça à l'école, là, sur les bancs d'école, être un chef d'antenne. Tu écoutes les bulletins. À un moment donné, je suis devenue un mélange de Peter Jennings, de Bernard de Rome, puis Pierre Bruno, puis Simon Duvivage. J'ai mélangé ça, puis j'ai brassé, puis ça a donné ce que j'étais. Puis Un jour, c'est drôle, j'ai été capable de dire, au lieu de dire bonsoir, mesdames, messieurs, en commençant mes bulletins, j'ai été capable de dire, et c'est venu spontanément, bonsoir tout le monde. Et ça, ça a marqué, je me disais ça hier, ça a marqué le moment où j'ai commencé à être moi-même.
Très intéressant.
Au lieu de ramasser tous ceux que j'imitais. Là, j'ai commencé à être moi-même. J'ai assumé que, bon, c'était moi, j'avais plus besoin de me placer, j'avais plus besoin de penser à mes mains, j'avais plus besoin de penser à ma voix. C'était moi, c'était ça. Puis, il semblait que le public aimait ça, puis je l'ai comme intégré. Puis, ça a complètement changé ma perception du boulot. Puis, j'ai commencé à être beaucoup plus relax aussi, là, parce que le syndrome de l'imposteur m'a habité longtemps. Alors,
t'es sérieux? Alors,
c'est cette manière-là. Ah oui, oui. Oui. Mais puis encore maintenant, je te dirais, je réalise des fois à quel point je suis dure avec moi-même. Je me dis, j'entends mon ami Nicole Bordelot me dire, il faut attendrir notre regard sur soi et sur les autres. Mais ça commence par soi. Mais je suis pas rendue là et j'ai encore du travail à faire. Mais je me pardonne rien. C'est épouvantable le niveau de stress que ça peut, qui peut nous accompagner dans ce temps-là. Puis à tout point de vue. Et ça, je sais, ça remonte à mon père qui était le grand patron de Radio-Canada, qui était un homme très exigeant. Là. Mais je me pardonne rien. Alors, ta description est très bonne. Tu sais, quand on me pose la question, j'essaie de résumer ce que les gens me disent, ce que je lis, puis ce que j'entends, ce que mes abonnés Facebook me disent quand ils me félicitent pour mes 20 ans. Et je ça me permet de glaner là, ici et là, des éléments. Ah, ben oui, d'accord, alors c'est ma voix. Ah, bon, c'est bon. Mais j'ai beaucoup de mal à me juger moi-même. J'ai beaucoup de mal à me regarder, point final. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est mon style, mais je sais que je suis moi-même, c'est tout. Et moi-même, ben, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est d'être toujours à l'affût de ce que l'autre va ressentir, et de toujours être en onde le plus authentique possible, parce que les Québécois ont cette belle qualité, ils aiment les gens vrais. On peut pas raconter des histoires, on peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on est, puis quand on essaie de faire ça, ça fonctionne pas, c'est pas compliqué.
Oui, puis je peux le témoigner parce qu'on se connaît un tout petit peu ouais. Dans la vie de tous les jours, et t'es exactement la même en onde, hors onde, dans la salle de maquillage. t'es la même personne quand tu promènes ton chien, t'es la même personne que t'es en onde. Écoute, il y a évidemment beaucoup de brasses camarades avec le départ de Pierre Bruno, avec le départ de Denis Lévesque. Comment tu vois ça, toi, ta place à l'information à Québécois pour les prochaines années? Quand tu dis, mettons, là, on fait le bilan des 20 dernières, mettons, les 5 prochaines, tu vois ça comment dans le casse-tête là, de TVA-LCN, tu vois ça comment?
Écoute, je suis très, très bien aux 22h. C'est un bulletin que j'aime beaucoup. C'est un bulletin qui nous permet de peaufiner les choses. C'est un rythme que j'aime, tu sais, ça correspond à mon biorhythme parce que je suis vraiment une chouette, là. Je vis vraiment de nuit, moi je me réveille à 5h l'après-midi. Alors,
on va t'appeler ma chouette comme la source dans le scandale des commandites.
Ouais. Ça va aller. Mais non, c'est ça correspond bien à mon rythme, à ma vie aussi, parce que j'ai un chien qui est codépendant et qui hurle sa vie quand je quitte en regardant par la fenêtre. Ça m'angoisse beaucoup. Je vais pas laisser mon chien seul. Alors, mon organisation de vie fait en sorte que mon petit nano est heureux parce qu'il est pas seul très longtemps. Mais sérieusement, je sais pas, c'est une grosse décision de pour la direction de trouver quelqu'un qui va succéder avec autant de brio à Pierre Bruno. On me pose la question, est-ce que ce sera toi? Je regarde. C'est à la direction de décider, mais je sais que c'est pas une décision qui se prend à la légère. Pour avoir su moi-même ce que ça représentait que de me nommer il y a 20 ans, c'est une décision majeure pour un réseau, là. Alors, ils ont des décisions à prendre par rapport à qui ils veulent mettre là. Est-ce qu'ils veulent miser sur la jeunesse? Est-ce qu'ils veulent miser sur une transition? Tu sais, il y a toute une réflexion. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'aime beaucoup mon bulletin. J'aime aussi beaucoup le 17 parce que je le fais depuis 2 ans, tous les vendredis. Oui. Parce que Pierre a la semaine de 4 jours et c'est autre chose. Les nouvelles t'arrivent dessus comme un tsunami. C'est extrêmement stimulant, mais autrement. Tu as géré la nouvelle qui est toute chaude. Là,
c'est pas le pas de recul que tu as à 22 ans.
Non, exactement. C'est pas le temps que tu as pour préparer tes trucs, ton bulletin, pour réfléchir. C'est beaucoup plus. C'est de la nouvelle là, chaude. Alors, c'est autre chose. J'aime aussi beaucoup ça. Je te dirais que moi, en ce moment, c'est l'idéal parce que je touche aux deux et je navigue entre les deux équipes, l'équipe du soir, l'équipe de jour. C'est une super belle équipe aussi. Ils sont hyper nombreux. C'est un peu la Cadillac à 17h. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens en région. Il y a beaucoup, c'est du live. C'est très, très vivant. C'est très, très vivant. Alors, je sais pas, écoute, la grande vie, moi, je fais confiance.
Ben oui, j'ai pris de comme il y a 20 ans.
Dans ma carrière jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, je regarde ça, je regarde aller, puis je médite, et puis j'envoie de bonnes énergies dans l'univers, puis on verra.
Tu médites pour de vrai? T'as médité? Parce que moi, il y a certains aspects de ta vie que je connais, certains que je ne connais pas. Je sais que t'es très en contact avec, tu sais, tu nous parlais tout à l'heure de ton amie Nicole Bordelot, donc professeure de yoga, etc. Mais donc, il y a tout cet aspect-là de bien-être qui est extrêmement important dans ta personnalité. Mm-hmm. Donc, tu médites vraiment?
Mm-hmm. Oui, j'avais arrêté. J'ai pris des cours avec Nicole pendant des années de yoga puis méditation. Puis la méditation, ça me procure énormément de satisfaction et de calme dans cette vie complètement folle. Et il faut que je me dépose. Soit l'année passée, j'ai commencé à avoir des problèmes d'arythmie cardiaque assez sérieux. Et j'ai passé toutes sortes de tests. Je me suis retrouvée à l'Institut de cardiologie à 2-3 reprises. Et ça fait au moins 3 fois que je me fais dire par les spécialistes, madame, vous êtes trop stressée puis vous êtes pas assez en forme. Alors, j'ai fait de la cohérence cardiaque puis je me suis remise à la méditation. Surtout quand je me suis offert l'épisode Chanteur masqué, j'ai failli faire une crise cardiaque sur le plateau le premier soir. Là.
T'es sérieuse?
C'est bon. Ah oui, vraiment. Là, écoute, j'étais ici chez moi, couchée pendant tout l'après-midi en essayant de me calmer parce qu'on enregistrait la première émission le soir et le cœur me battait à 135. Et ça a été comme ça toute la journée. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment tellement eu peur que le lendemain, j'ai appelé mon médecin. J'ai dit, donnez-moi quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas faire ça dans cet état-là. Finalement, je me suis calmée en méditant. Alors, c'est extrêmement important, de, comme dit Nicole, de déposer ses bagages et puis d'entrer en dedans de soi, puis de retrouver cette espèce de zone de sécurité, là, notre quai intérieur là, pour faire face au reste, parce qu'on s'entend que animer un bulletin de nouvelles, surtout dans ce contexte-ci, avec la pandémie, avec maintenant la guerre, avec cette... vous avez tous vu hier encore cette nouvelle fusillade aux États-Unis. J'entendais Richard ce matin là, analyser avec beaucoup de justesse et de psychologie ce qui se passe au niveau du tissu social qui se brise, puis ces pauvres garçons-là qui ont des problèmes de santé mentale et qui cherchent des familles et puis qui on est face à des problèmes mais vraiment fondamentaux à tout point de vue, au niveau sociologique, au niveau climatique, c'est à tout point de vue. On dirait qu'on est au niveau zéro, là. On recommence à zéro dans toutes nos réflexions et c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, mais il faut saisir les occasions de faire des changements parce que on a le sentiment collectivement qu'on s'en va vers un énorme mur noir. Et pour digérer ça, tu sais, pour le présenter tous les soirs, parce qu'on s'entend qu'on fait pas des bulletins de bonnes nouvelles parce que personne les écouterait. Il y a toutes sortes de choses dans un bulletin, mais il y a quand même beaucoup d'éléments très qui peuvent être très potentiellement décourageants pour beaucoup de monde. Alors,
d'où l'importance de la méditation, et j'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée, retrouver le quai intérieur pour aller accoster puis se calmer, déposer nos bagages. Mm-hmm. Plein de bonnes sources de réflexion. Écoute, Sophie, on est très content qu'il y a 20 ans de ça, tu n'aies pas décidé de déposer tes bagages puis de t'en aller faire une maîtrise en psychologie. On est très content de t'avoir gardé pour nous au TVA Nouvelle 22h depuis 20 ans maintenant. Félicitations pour ces 20 années-là qui sont vraiment passées à la vitesse de l'éclair en un clin d'œil. Merci beaucoup, Sophie, puis on t'en souhaite 20 autres.
Merci beaucoup, Sophie. Merci infiniment.
Merci, au revoir.
Au revoir.